Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Margot Léridon et Corentin Mansois, mais aussi Maïder Gérard et Marguerite Caton, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Jordan Fuentes. Dernier temps de notre série consacrée au Ramadan. Après nous être intéressés lundi à la dimension politique de cette période de jeûne, nous avons examiné mardi ses conséquences économiques. Hier, nous nous sommes penchés sur les enjeux diplomatiques qui se cachent souvent derrière la zakat, cette aumône demandée aux croyants pendant le mois sacré. Pour conclure, allumons nos télévisions, acteurs clés du Ramadan dans beaucoup de foyers. Ramadan, un mois de communion cathodique, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
وقتاش تزهيلي الدنيا ونولي فنانة قد الدنيا
أنا وينو ما عنديش في كونفونس مش تعيش وتدور بقلة الصبر اللي عندك
أنا جاي دي فيرو
بالزاف دي فيرو
بونسوار لك لوشار
من اليوم اسمك ساوسة
مستحيل يكون اسمي ساوسة
نحروب
ما نحيش
نحروب
نستناو في تاكسي
علشان احنا مع بعضينا والاول
Extrait de Darnana, une série réalisée par Mohamed Ali Mihoub avec Mouna Noureddine dans le rôle phare, Carthage Plus avec Ahmed Landolsi, Aïcha Ben Ahmed ou encore Hichem Rostam ou encore El Arba, troisième série dont on entendait un extrait de Kaïskir. Voilà des séries que peuvent regarder aujourd'hui, en ce moment, les Tunisiens pendant le Ramadan. Rupture du jeûne annoncé en direct, grilles modifiées, programmes spéciaux, explosion des recettes publicitaires. Le Ramadan est aussi un mois d'effervescence cathodique. Pour la Turquie, par exemple, dont les séries télévisées inondent le marché arabe, c'est la garantie de belles exportations. Mais si la hausse des audiences pendant cette période est une constante régionale, le Ramadan sur petit écran n'est pas le même partout. Alors que dans le monde sunnite, c'est un mois de fête rythmé par les séries comiques, les caméras cachées. C'est une période plus ambivalente pour les Iraniens chiites qui commémorent l'assassinat de l'imam Ali et diffusent donc davantage de feuilletons tristes avec une forte dimension morale, même si les choses changent, on va le voir. Alors quels sont justement ces programmes cultes du Ramadan dans les différents pays arabo-musulmans? Que nous révèlent-ils de ces sociétés? Les feuilletons sont-ils aussi des outils de soft power pour les nations qui les exportent? De propagande politique ou religieuse pour les autorités qui les financent? Comment le Ramadan télévisuel s'inscrit-il dans la continuité d'anciennes sociabilités ramadanesques? Pour évoquer toutes ces questions, deux invités. D'abord, Assal Bagheri, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes une spécialiste du cinéma iranien. On a déjà eu l'occasion d'échanger ensemble à ce micro. Vous êtes chargée de cours à l'université Sorbonne. À vos côtés, Béatrice Garapon, bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous. Vous êtes également déjà venue dans l'émission. On n'avait pas parlé de série. Ce qu'on va faire aujourd'hui, parce que ça vous intéresse également, vous êtes politologue, une spécialiste de la Turquie, et puis post-doctorante associée au CETOBAC, qui est un laboratoire de l'EHESS. Le Moyen-Orient est évidemment très friand de séries télé tout le long de l'année de manière générale, mais c'est vrai que Ramadan, c'est vraiment un moment où la proposition télévisuelle est un peu différente. Il y a vraiment des programmes télévisuels spéciaux Ramadan. C'est quelque chose que moi j'ai un peu découvert, hein, Béatrice Garapon.
Oui, tout à fait. En ce qui concerne les... Donc tous les programmes sont changés, donc il y a voilà des présentateurs, par exemple, ce qui est très à la mode, des présentateurs qui vont répondre aux questions des croyants sur ce qu'il est licite ou non de faire. Et il y a évidemment les séries, et beaucoup de séries turques qui ont la spécificité de pouvoir se regarder en famille, donc qui sont considérées par rapport aux séries américaines comme des séries décentes, du moins sur le papier, donc ce qui fait que tout le monde peut regarder, toute la famille peut regarder, les enfants ne seront pas choqués par des scènes un peu osées. Donc
Assal Bagheri, c'est pareil en Iran, il y a vraiment une saison Ramadan pour la télévision, pour les séries, etc. Il y a des programmes particuliers très forts.
Tout à fait, exactement. C'est depuis, en fait... la première série qui a vraiment marqué le mois de Ramadan, c'est en 1994. Avant ça, nous n'avions pas des émissions, en fait, spécifiques pour le Ramadan. C'était l'époque de la guerre, etc. La reconstitution, la télé qui n'avait pas beaucoup d'argent. Et petit à petit, dans les années 90, en fait, exactement, en prenant le même exemple que les autres pays musulmans autour de l'Iran, en fait, ils ont commencé à avoir des programmes, des séries particulières et aussi des émissions en direct. Ça, c'est vraiment aussi la particularité de la télévision télévision iranienne pendant le Ramadan.
Alors on va s'intéresser à l'Iran bien sûr, mais on va commencer par la Turquie. La Turquie, les séries turques, elles rencontrent un immense succès, Béatrice Garabon, dans l'ensemble du Moyen-Orient et du monde arabo-musulman. C'est le deuxième exportateur mondial derrière les États-Unis. C'est dire ce succès. Comment le comprendre, Béatrice Garabon, c'est quoi derrière ce sujet? C'est une proposition artistique, culturelle particulière?
Alors, il y a certainement un peu de ça, mais la Turquie exporte un peu partout dans le monde. Hein. Je pense que c'est important de le rappeler, pas seulement au Moyen-Orient, enfin, je veux dire, pas seulement dans les pays musulmans, aussi en Amérique latine. Je pense que une des raisons qui est quand même important, qu'il est important de souligner, c'est un peu la raison économique. C'est-à-dire que les séries turques, d'une part, se vendent quand même 5 fois moins cher que les séries américaines sur le marché. Elles sont plus longues, et ça je pense que c'est très important parce qu'en fait ça correspond aussi à une pratique sociologique de visionnage de la télévision où en fait la télé est allumée en permanence, donc il faut des séries, enfin il faut des contenus, et donc plus c'est long aussi, mieux c'est. Hein. Dans, une série en Turquie, je disais, elle dure 90 minutes, elles sont parfois un peu plus longues, ce qui fait qu'avec les pages de pub, en fait, un épisode d'une série, ça peut durer de 20h à 23h30.
Ça fait longtemps que les séries turques ont autant de succès dans cette région-là, parce que il fut un temps où c'était en fait les productions égyptiennes, je crois, qui étaient massivement exportées dans la région. Ça fait longtemps que la Turquie rencontre ce succès?
À partir de 2008, le tournant, c'est vraiment 2008. En fait, les séries turques commencent à se développer d'abord en interne au tournant des années 2000. En fait, c'est dû à une libéralisation des chaînes. Donc, la radio-télévision publique cesse d'être publique donc à partir de la fin des années 1990. Et donc là, il y a beaucoup de chaînes privées qui se forment en même temps, avec donc une nécessité de produire beaucoup de contenu. Et c'est comme ça que les séries turques prennent véritablement, commencent vraiment à se développer. Et à partir de 2008, elle commence à s'exporter. Ce qui est très important de comprendre, en fait, le système des séries turques, et c'est important parce que, je sais pas si on aura l'occasion d'y revenir, mais en fait, c'est aussi un secteur qui connaît actuellement des difficultés. C'est que tout dépend du taux d'audience. En fait, le système s'est développé de telle façon que les séries ont besoin de la pub qui les finance. Et la pub a besoin des séries puisqu'elle a besoin de forts taux d'audience. Donc c'est comme ça que marche le système.
Et aujourd'hui, le système est un peu en crise.
Le système est en crise. Donc d'une part, il y a la concurrence de Netflix qui est ça c'est pour toutes les télés, je pense, au niveau mondial. Et d'autant que les jeunes regardent de plus en plus Netflix.
Toutes les télés où il y a des filiales Netflix, parce que oui. Du coup, hier, j'ai un petit peu regardé, il y a effectivement une filiale Netflix en Turquie, mais par exemple en Iran, il y en a pas.
Oui. Tout à fait.
Voilà.
Mais du coup, ça veut dire que les effets sur l'industrie divertissement, l'industrie des séries, pas du tout le même.
C'est-à-dire que le Netflix existe en Iran, mais en cachette. C'est interdit.
Il n'y a pas de filiale iranienne Netflix, alors qu'il y a une filiale turque. Alors, c'est évidemment des enjeux économiques considérables quand on regarde l'industrie même des séries, de la télévision, mais ça va bien au-delà. J'ai vu, par exemple, qu'il y avait des recettes qui étaient assez directement engendrées par ces séries, sur le tourisme, notamment.
Oui.
Sur le mobilier aussi, visiblement les meubles turcs s'exportent mieux grâce aux séries. Vous confirmez?
Non, mais c'est énorme. C'est-à-dire que maintenant, à Istanbul, la première population touristique en Turquie, c'est des touristes du monde arabe. Et c'est vraiment, vraiment directement lié aux séries qui sont souvent aussi, les séries qui sont exportées, souvent elles sont tournées en plein air, donc on voit des scènes magnifiques, du Bosphore, des paysages, Istanbul c'est une très belle ville, très cinématographique, donc ça je pense que ça a énormément joué. Et on le voit, même de façon un peu empirique, moi quand je me balade un peu dans le monde arabe, il y a plein de notamment de femmes d'ailleurs, qui, c'est pour elles, aller à Istanbul, c'est vraiment le rêve de leur vie, c'est parce que c'est associé aussi à tout cet imaginaire un peu glamour des séries turques.
Est-ce qu'on est sensible à Salbagheri, à cet imaginaire justement du côté de l'Iran? Est-ce qu'on regarde les séries turques?
Beaucoup. Alors donc il faut savoir que ces séries-là ne peuvent pas être projetées à la télé iranienne, qui est bien sûr stricte en fait en ce qui concerne les réglementations de la censure, etc. Depuis quelques années, d'ailleurs dans les 2008-2009 aussi, un peu avant en fait, on a commencé à avoir beaucoup de chaînes satellites, donc interdites en Iran mais présentes dans toutes les familles iraniennes quasiment, où là on a des chaînes privées qui viennent, on ne sait pas exactement d'où, et ces chaînes projettent en permanence toutes les séries turques doublées en persan. Ça, ce qui est vraiment en fait très très intéressant parce que du coup les gens ne sont pas obligés de lire les sous-titres, etc.
Donc ça veut dire qu'il y a une économie du doublage alors même que ces séries sont interdites en Iran.
Tout à fait.
Mais où est-ce qu'on fait ce doublage? En Iran?
On ne le sait pas, en fait. Ouais. Mais il y a eu à un moment donné aussi des bruits. On a arrêté des gens. En fait, on a dit qu'ils avaient doublé telle série, etc. Parce que c'est vraiment interdit. Et il faut savoir, vraiment, ces séries-là, c'était, et c'est toujours d'ailleurs, mais ça, depuis d'ailleurs 2008, c'est devenu la discussion, en fait, des familles autour des tables.
Alors, je suis sûr qu'il y a une série qu'on a vue aussi en Iran, parce qu'on l'a vue partout. Ça a été vraiment une série, peut-être l'une des plus notables des 10-15 dernières années, qu'on appelle en français Le Siècle Magnifique. En turc, allez, je me lance, Muhteşem Yüzyıl, c'est comme ça qu'on dit, Béatrice Garapon. Allez, petit extrait.
Siz yedi iklimin sultanı, üç kıtanın padişahı, Sultan Ahmet Han'sınız artık.
Hey can!
Voilà, une série qui s'inspire de la vie de Soliman Ier, dit le Magnifique, diffusé à partir de 2011, qui a connu un extraordinaire succès. Alors Béatrice Garapon, vous allez nous expliquer pourquoi il a eu un tel succès en Turquie et ailleurs. Et puis, surtout, ce qui va m'intéresser, moi Béatrice Garapon, c'est qu'il y en a un qui a visiblement moyennement goûté la série, c'est Erdogan. Il a dit des choses absolument terribles. Il a dit que c'était une série contraire aux bonnes mœurs musulmanes. Je maudis et condamne les réalisateurs de ces séries et les propriétaires de cette chaîne de télévision. Donc j'aurais compris pourquoi est-ce que ça a marché partout, dans tous les foyers, mais que Erdogan n'a pas apprécié.
Bon, alors, effectivement, cette série, donc, elle raconte la vie de Soliman le Magnifique. Mais bon, ce qu'il est important de comprendre, c'est que c'est quand même essentiellement des intrigues de harem. Donc, c'est essentiellement, voilà, des femmes, les épouses du sultan qui sont jalouses les unes des autres, qui montrent, qui font des qui manigancent des intrigues, des femmes qui sont fâchées contre leur mari, après elles se réconcilient, etc. Donc, je pense que c'est quand même une série qui parle énormément aux femmes. Et d'ailleurs, ça, peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais en fait, le public, quand même, des séries turques, c'est essentiellement des femmes vraiment voilà, entre 25 et 60 ans, mais vraiment beaucoup, beaucoup de femmes.
Et pourquoi ça pose problème à Erdogan?
Eh bien, parce que ce qu'il reprochait, c'était que ça donnait une image du sultan. Enfin, ça ne montrait pas toutes ses conquêtes militaires et ça donnait une image un peu dégradée. Voilà,
ouais, il aurait préféré voir cette image de Soliman, le soldat à la tête des campagnes militaires en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord. C'était ça qu'il aurait voulu voir.
Ouais. Et il y a autre chose, c'est que c'est vrai que cette série est quand même assez... Donc, ça reste... C'est très décent, hein, évidemment, c'est une série turque. Mais les costumes sont quand même assez... voilà, marquent la taille, sont assez décolletés. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que ça ne correspond pas du tout à la réalité historique. Et donc, il y a toute cette atmosphère un peu de harem qui peut être parfois un peu quand même évocateur. Voilà. Et donc, je pense que ça aussi, ça pose problème auprès des dirigeants de l'AKP.
Assal Bagheri, vous confirmez, on l'a vu en Iran, Le Siècle Magnifique.
Ah oui, tout à fait. Et c'est très, très long. Hein. C'est une série qui a duré. Mais à chaque fois que je rentre en Iran, je vois que ça dure et les gens regardent. Mais ce qui m'a intéressé beaucoup dans cette série, c'est que c'est à peu près en fait l'équivalent, vous savez, des séries qu'on voit ici ou aux États-Unis au milieu de la journée, Amour et Gloire, des choses comme ça, mais dans une façon historique. C'est pour ça qu'en fait, c'est pas du tout ni la façon historique de cette série qui est, mais vraiment les histoires d'amour, de cacheterie, de jalousie, etc. Et c'est pour ça que les Iraniens aussi en sont vraiment friands.
Béatrice Garapon, faisons un peu de politique. Parce qu'on peut aussi faire de la politique avec les séries. Parce que on sait évidemment que l'AKP a une place centrale dans l'économie nationale. Il y a beaucoup de responsables politiques qui sont aussi des hommes d'affaires. Et d'ailleurs, y compris dans le premier cercle du pouvoir. Les fils, par exemple, de Erdogan sont des hommes d'affaires qui ont réussi à amasser des sommes absolument colossales. Est-ce que l'AKP, le parti islamo-conservateur de Erdogan, est très présente dans cette industrie des séries télé?
Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'AKP, donc au départ, c'est quand même un parti, voilà, conservateur, qui s'intéresse pas du tout aux questions de culture et qui est assez éloigné. Enfin, je veux dire, les milieux de l'AKP, c'est quand même un milieu très très éloigné des milieux de la télé, qui sont beaucoup plus, où il y a des acteurs, des scénaristes qui vivent beaucoup plus librement. Enfin, c'est des milieux qui sont quand même beaucoup plus proches de l'opposition.
Pourtant, il y a quand même des chaînes qui sont directement affiliées à des gens.
Oui, mais c'est pas les chaînes qui ont les séries les plus populaires.
D'accord.
Mais récemment, alors d'une part, l'AKP a un peu pris en route tout ce discours du soft power. Donc une fois que les séries turques ont commencé à beaucoup s'exporter, tout le monde disait voilà, c'est le modèle turc. Donc ça, l'AKP a un peu pris le train en route. Donc on a entendu beaucoup de gens, beaucoup de dirigeants de l'AKP dire que c'était très très bien. Et tout
c'est,
ça.
C'est quand ce moment-là, ce moment où justement l'AKP comprend qu'on va pouvoir faire des séries turques parce qu'elles s'exportent aussi bien, un outil de soft power, et vendent justement ce modèle, ce fameux laboratoire turc qui permet d'allier l'islam et la démocratie, pour faire vite.
Bon, je dirais autour de 2010-2011. Voilà. Et donc maintenant, là, comme le secteur est un peu en difficulté, et aussi qu'il y a eu une manne financière quand même énorme avec le tourisme et aussi, comme vous le disiez tout à l'heure, l'exportation de mobilier, il y a une loi qui est passée très récemment au Parlement turc pour soutenir les séries qui contribuent à promouvoir l'image de la Turquie à l'international. Et donc notamment, les scènes qui sont tournées en plein air sont privilégiées, avec des, comme je vous le disais, avec les vues magnifiques d'Istanbul, mais aussi les séries qui montrent du mobilier de marque turque, puisque c'est l'un des gros pôles d'exportation aussi.
Oui, mais c'est étonnant parce qu'on comprend très bien que pendant des années, on ait cherché à vendre effectivement ce modèle parce que par ailleurs, à l'extérieur, il était plutôt bien vu. On regardait avec une certaine bienveillance effectivement ce fameux modèle turc. Aujourd'hui, c'est un peu différent compte tenu de la dérive autoritaire à laquelle on assiste. Peut-être en particulier depuis le putsch manqué depuis 2016. On pourrait se dire aussi que finalement, le pouvoir turc ne cherche plus à vendre ce modèle puisque de toute façon, on n'y croit plus à l'extérieur. Mais est-ce qu'on, ce que vous nous dites, c'est qu'on continue finalement à faire du soft power avec les séries et on continue à jouer cette carte-là?
Oui, bah, de toute façon, je pense que c'était quand même un peu exagéré cette histoire de modèle turc par les séries, puisque comme je vous le disais et comme Assad l'a dit aussi, les thèmes des séries turques, c'est des thèmes un peu universels, voilà, c'est amour, gloire et beauté. Et donc je pense que ça a toujours eu quelque chose d'un peu artificiel, ce discours du soft power raccroché aux séries. Et là, bon, malgré tout, comme ça continue à rapporter une manne au niveau du tourisme, les acteurs, les dirigeants de l'AKP continuent à essayer de se raccrocher à ce discours-là. Mais
avec une vision claire, avec un projet culturel clair, des objectifs définis, on veut vendre tant de séries, on veut que ça nous rapporte tant de milliards, ou est-ce que c'est beaucoup plus flou que ça?
Oui, alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un objectif en 2023, donc 2023 c'est une année très symbolique pour la Turquie puisque ce sera le centenaire de la fondation de la République, et donc tous les grands projets de l'AKP, d'Erdogan, etc. se donnent cet horizon de 2023 qui est extrêmement symbolique, donc tous les grands travaux, etc. Et donc là, les dirigeants de l'AKP ont dit, enfin le ministre du tourisme d'ailleurs a annoncé récemment que l'objectif pour l'année 2023 c'est que le secteur de la production de séries atteigne un volume de 1 milliard de dollars actuellement, pour 2018 c'était 350 millions de dollars. Donc il y a cet objectif-là, mais à mon sens ça reste quand même c'est pas non plus très articulé. Enfin c'est-à-dire que les dirigeants de l'AKP ont bien compris que ça allait, que c'était dans leur intérêt cette histoire de série, mais je pense pas non plus que ce soit.
C'est pas un levier décisif pour remettre sur pied l'économie turque qui va pas très bien en ce moment. C'est ça que vous voulez nous dire?
Oui, enfin et puis surtout au niveau culturel, je pense que c'est quand même assez. Enfin je pense pas que les séries turques promeuvent véritablement le modèle turc.
Alors, regardons ce qui se passe du côté de l'Iran à Salbagheri, alors que le Ramadan vient de commencer. Ce qu'on regarde énormément en Iran, c'est un programme, allez, je me lance aussi, Asr-e Jadid, la nouvelle ère, Asr-e Jadid, c'est quoi?
Oui, c'est ça, Asr-e Jadid.
Eh bien, extrait.
Vous savez, Hassan, je pense que c'est l'Iranie-Tarine, c'est l'Iranie qui est allé dans Asr-e Jadid, c'est ce qui est allé. Merci.
Bon, alors évidemment, c'est un peu compliqué pour nous de comprendre à Salbagheri, mais vous allez un peu nous expliquer. Mais en gros, c'est un programme où les gens viennent danser, chanter, faire des sketchs, des tours de magie, toutes sortes d'acrobaties. J'ai regardé du coup un petit peu hier. Si je comprends bien, c'est une sorte de la France a un incroyable talent, mais version Iran. C'est l'Iran a un incroyable talent, c'est ça?
Tout à fait, exactement, c'est ça. C'est sur le même modèle, en fait, avec 4 coachs, etc. Mais ce qu'il faut... Alors, c'est très intéressant l'extrait que vous venez de mettre, je sais pas.
Choisi par Benjamin.
Oui, je sais pas s'il parle iranien ou pas, mais en fait, c'est un moment où le coach, il est en train de dire, ça parle de l'iranité. Et parce qu'en fait, toute l'émission est basée un petit peu sur ça aussi, c'est-à-dire que comme c'est un modèle étranger et que la télé iranienne n'aime pas ça, et donc en fait, à chaque fois, les coachs n'arrêtent pas de parler de ça, c'est-à-dire que cette musique-là, on l'a iranisée, le pantomime, on peut l'iraniser, vous voyez, et ça, c'est vraiment...
C'est bien, c'est-à-dire que c'est pour se démarquer, c'est pour dire, on est bien conscient que c'est au fond un format qui a été, qui nous vient de l'extérieur, qui nous vient de l'Occident, mais on l'a adapté à notre propre sauce, c'est ça. C'est le message qu'on martèle.
Tout à fait. Et d'autant plus que, comme la télé iranienne, comme je vous disais, c'est très strict. En fait, c'est une télé publique. On n'a pas de chaîne privée. Il faut savoir, donc c'est vraiment important d'expliquer, c'est le guide suprême qui dirige, en fait, c'est rattaché au guide suprême, la télévision iranienne. Et donc, c'est lui qui choisit personnellement le directeur, en fait, de la télévision iranienne, en général, tous les 5 ans. Et donc, c'est un quinquennat qu'il peut renouveler une fois. Mais donc, ça, c'est très important. Et...
Attendez, ça veut dire que, en gros, le guide suprême, là, pour ce programme, par exemple, qui s'appelle, qu'on traduit plutôt par la nouvelle ère. C'est
oui,
ça le titre
tout
du programme.
Fait.
Il a validé ce programme. Parce que c'est des programmes qu'on voyait pas du tout, hein, il y a quelques années. C'est vraiment très, très nouveau.
Ça, c'est cette année, hein.
Il a validé ce programme.
En tout cas, on imagine. Après, on sait pas ce qui se passe derrière, mais ça, c'est sûr que s'il n'est pas d'accord, ce genre d'émission, après, bien évidemment, il donne son accord à un directeur que lui, il pense capable, en fait, de choisir par rapport au programme de la télévision iranienne, qui sont, en général, quand même, c'est une télévision de propagande, hein. En fait, il faut être clair là-dessus. La télévision iranienne est une télévision de propagande. Mais, avec ça, il y a aussi des choses qui peuvent se passer.
Et donc là, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que est en train de naître en ce moment en Iran une autre télévision qui serait une télévision de divertissement.
Exactement. En fait, bon, le divertissement existait, mais d'une manière très, très différente. Et là, vraiment, on part depuis cette année. Il y a eu 2 émissions qui ont vraiment marqué la télévision iranienne depuis quelques mois. Donc, il y a celui-ci. Donc, la première partie est finie. Et là, au mois de Ramadan, en fait, on a les finaux. Donc, tout le monde attend maintenant, en fait, de voir que les dernières vont, en fait, s'opposer,
etc. C'est les finales pour les gens qui sont des habitués de ce type de programme.
Voilà, les finales de, donc, pendant un mois.
C'est le moment phare, exactement. Le moment le plus fort du programme.
Donc, il y a ça, il y a, en fait, une autre émission qui s'est arrêtée.
Attendez, on va y venir, Assal Bagheri, attendez. Pas trop vite.
D'accord.
Si je reste sur ce programme, La Nouvelle Ère, il y a une chose aussi qu'on remarque, c'est qu'on a un présentateur assez jeune, assez beau, qui au fond pourrait être un présentateur qu'on trouverait dans nos chaînes françaises, européennes ou américaines. Il est probablement très doué, mais c'est vrai que il apparaît qu'il a aussi peut-être été choisi pour sa jeunesse et sa beauté. Enfin, peut-être que je fais cette hypothèse, mais je voudrais vous entendre là-dessus. Et ça aussi, c'est assez nouveau, non ?
Alors, pas c'est nouveau, mais pas si nouveau que ça, parce que Ehsan Ali Khani, ça fait quand même une dizaine d'années qu'il est.
C'est une vedette.
C'est une vedette de la télévision iranienne. Pourquoi ? Parce que spécialement, en fait, pendant une dizaine d'années, il animait une émission de Ramadan qui s'appelle Mohe Asal, Lune de Miel. Et ça, c'était l'émission phare de ces 10 dernières années, en fait, de mois de Ramadan. Cette année, cette émission s'arrête pour donner place à Asr-e Jadid.
C'était quoi l'ancienne émission Mohe Asal, c'est ça ?
Mohe Asal.
Mohe Asal,
oui,
pardon.
Lune de Miel.
Qu'est-ce qu'il y avait dans cette émission ?
Alors, c'est une émission, en fait, je pense qu'on a un peu ce genre d'émission aussi ici, mais c'est une émission donc en direct, juste au moment où on interrompt le jeûne. Et il invite en fait, c'est une émission pour rendre les gens ordinaires importants. C'est-à-dire qu'il va aller chercher, par exemple, quelqu'un qui balait les rues mais qui a sauvé un enfant ou des choses comme ça, ou quelqu'un qui a été le seul survivant d'un tel massacre, des choses comme ça. Donc des gens très très ordinaires, il les ramenait à la télévision, il leur donnait beaucoup d'espace pour qu'ils parlent, etc. Donc c'était l'idée, mais petit à petit, cette émission est devenue de plus en plus en fait pleurnichard. C'est devenu un peu une forme d'émission où quand on regarde, les gens pleuraient. On avait l'impression qu'on les humiliait. Mais à l'insu, je pense, des invités. Et même, je pense, à l'insu du présentateur. Et c'est la façon dont la chose, en fait, a pris place petit à petit. Beaucoup d'humiliation.
Et donc quoi ? Ça ne correspondait plus, finalement, aux attentes du public. C'est ça que vous êtes en train de nous dire, puisqu'on l'a arrêté, cette émission. On aurait pu faire le choix de la conserver et de mettre en parallèle cette nouvelle émission. C'est-à-dire garder les deux formats. L'ancienne, cette émission un peu larmoyante, comme vous nous la décrivez. Et puis cette émission beaucoup plus... contemporaine, qui est cette version de l'Iran, un incroyable talent.
Je pense que bon, le présentateur ne pouvait pas faire les deux en même temps parce que c'est des grandes productions, etc. Mmh. Il voulait en fait le continuer. D'ailleurs, ils avaient annoncé qu'un jeune chanteur de pop allait prendre le relais, mais ça ne s'est pas fait à la dernière minute. C'est-à-dire, nous, on attendait le premier jour de Ramadan l'émission, ça ne s'est pas fait. Et on a dit que c'est, en fait, apparemment, certains religieux, apparemment, ont dit que un présentateur de, un chanteur pop n'est pas adapté pour une émission de Ramadan, vous voyez. Donc, mais en tout cas, cette émission s'arrête, Asr-e Jadid reprend. Mais ce qui est intéressant aussi dans Asr-e Jadid, donc dans la nouvelle ère, c'est que même si on est sur un incroyable talent, on a encore un petit peu de cette façon. Parfois, on a l'impression que les gens sont humiliés. Quand on regarde petit à petit, c'est aller encore vers une forme qui est devenue en fait une forme de marque, de brand de Mohé Assal, qui est tout le temps « Ah, vous êtes arrivé ici comment? Vous n'aviez pas d'argent, vous avez un incroyable talent, mais vous voyez et ça, c'est vraiment « Ah, alors, on va vous donner un peu d'argent. Oh là là, vous n'avez pas dormi parce que votre mère est mourante. » Tandis que ce n'est pas la place pour ce genre de choses dans une émission de talent. Mais on ramène toujours vers l'iranité, pauvreté, gentillesse, tout ça.
Oui, donc on a véritablement adapté finalement le programme, comme vous nous le disiez tout à l'heure, également dans le contenu. Béatrice Garapon.
Oui, c'est un concept qui a aussi beaucoup de succès en Turquie, cette émission de... Alors en Turquie, ça s'appelle Yetenek Siz Siniz, donc vous êtes le talent. Mais il y a aussi un jeu de mots, parce que ça peut vouloir dire vous êtes sans talent. Bon. Et l'un des gros ressorts quand même de cette émission, c'est un peu le plaisir de se moquer de ceux qui font des flops, donc qui arrivent, ils présentent un truc, mais en fait c'est complètement raté, le jury est très méchant avec eux et tout ça, donc... Voilà, je me demande s'il n'y a pas aussi... Enfin, l'un des intérêts de cette émission, c'est jouer sur un plaisir un peu malsain du spectateur.
Alors ça, en Iran, ce n'est pas du tout comme ça. C'est vrai qu'en Europe, on voit ça beaucoup, en fait, cette façon. Alors, en Iran, non, en fait. Et comme on leur a dit, je pense, de ne pas être méchant.
On ne se moque pas.
Non, on ne se moque pas du tout. Mm. Mais la façon dont le présentateur, en fait, présente le parcours, l'historique de ces gens-là, on va toujours vers ce genre d'émission de société où on voit que les gens ont beaucoup de difficultés, qui n'ont pas d'argent, que sans aucune aide, ils ont arrivé. C'est plutôt ça, en fait, mais vraiment de larmoyante. Voilà, on a envie de pleurer pour ces gens-là.
Asal Bagheri, même question que tout à l'heure avec Béatrice Garapon sur la Turquie. Il faut évoquer les questions politiques. On comprend que ce programme-là, il a quelque chose vraiment de totalement nouveau, de totalement inédit dans l'histoire de la télévision iranienne. À quoi est-ce que vous attribuez justement ce changement? Est-ce qu'il faut aussi le traduire par une forme d'ouverture plus générale du gouvernement iranien, ou est-ce qu'il faut nuancer les choses?
Alors, c'est vrai que la télévision iranienne est complètement indépendante de gouvernement et je pense des aires politiques, parce que comme c'est le guide suprême, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a de plus en plus de jeunes directeurs dans les têtes des chaînes télévisuelles. Et donc, je pense qu'ils essayent quand même de renouveler parce que il y a aussi plusieurs concurrentes, donc dont les satellites, dont les séries turques depuis plusieurs années. Et de l'autre côté aussi, ce qui n'est pas interdit, c'est-à-dire quelque chose qui est autorisé, on a des séries qui sortent en DVD. C'est-à-dire que la télévision ne peut pas les montrer parce qu'on voit un peu des cheveux, les femmes sont un peu plus maquillées, etc. Et c'est vrai que la télévision est très stricte là-dessus. Donc, on prend des autorisations, c'est très nouveau depuis quelques années, une dizaine d'années. Donc, les séries qui sont en DVD et tous les jours, on va acheter le DVD. Et donc, ce sont des concurrents. Donc, on essaye, je pense, de renouveler et d'avoir ce genre d'émission. Et d'ailleurs, on a de moins en moins de séries. Pendant le Ramadan, ce qui n'était pas le cas dans les années 90 et 2000.
Si on essaye de regarder où se situe la ligne rouge, parce que là on voit bien que les choses sont en train de bouger et que finalement il y a des programmes qu'on peut voir aujourd'hui en Iran qu'on ne pouvait pas voir hier, donc les lignes sont en train de bouger. Où est-ce qu'elles s'arrêtent? Est-ce qu'il y a des programmes qui ont été proposés, envisagés, pourquoi pas programmés dans un premier temps à la télévision et qui finalement ont été retirés parce qu'on a jugé que ça c'était trop?
Tout à fait. Ce qui arrivait très très rarement, c'est pas comme le cinéma où on autorisait un film et après on descendait le film parce que les Basidji, parce que les milices ne voulaient pas ce film. À la télévision, comme tout est très réglé, tout est très organisé d'avance, on savait très bien ce qui allait se passer. Mais alors récemment, donc à peu près au même moment que donc Asr-e Jadid, on a eu cette émission Barandebosh, donc Sois gagnant, donc l'équivalent de Qui veut gagner des millions.
D'accord.
présenté par qui? Par la grande star du cinéma iranien, populaire, commercial, Mohammad Reza Gulzar, très bel homme, bien sûr, mannequin, etc. Et donc, il commence à présenter à la télévision une émission comme ça, donc de jeu, bien sûr, que les gens vont gagner de l'argent. Plusieurs mois passent et donc récemment, tout le monde attendait aussi pour le Ramadan, etc. Parce que c'est toujours des... Du coup, ça devient des rendez-vous habituels. Et ben, ça s'est arrêté il y a très peu de temps parce que le guide suprême a annoncé, sans dire le nom de l'émission, qu'il ne faut pas avantager le peuple d'aller vers les jeux de l'argent, etc. Et qu'il ne faut pas leur apprendre à gagner de l'argent facilement. Et alors... net, le lendemain, il n'était
donc
plus...
Donc ça, c'est au-delà de la limite.
C'est et on ne limite, peut pas le savoir, je pense, parfois, oui, ça
toujours
dépasse.
Oui, et puis les limites, c'est toujours pareil. C'est toujours de la négociation et de la renégociation, cette histoire de limite.
Et les gens attendent, ils disent peut-être que ça va revenir. Donc on va voir.
Et quid des programmes humoristiques? On va tout à l'heure, dans un instant, avoir un nouvel invité, Larbi Chouika, sur la Tunisie. Et on va parler avec lui, notamment des programmes humoristiques, des caméras cachées, qui sont véritablement des programmes qu'on voit... en particulier à ce moment de Ramadan. Ça fait vraiment partie des programmes phares de la période de Ramadan. Est-ce qu'en Iran, on a aussi des séries, des programmes comiques, humoristiques, en particulier à Ramadan? Je le disais tout à l'heure dans mon introduction, le Ramadan, c'est pour les chiites un moment qui est pas forcément aussi festif que pour les sunnites, puisque on fête, on commémore l'anniversaire de la mort de l'imam Ali, le premier imam qui est à l'origine du schisme entre sunnisme et chiite. Donc, est-ce qu'on peut se permettre, d'une certaine manière, d'avoir ce type de programme à la télévision iranienne ou c'est pas possible?
Alors, donc, ce qui est sûr, c'est vrai qu'il y a une grande différence entre la gaieté qu'on trouve, je pense, dans d'autres pays musulmans et que, par ailleurs, en Iran, on est beaucoup plus réservé, même si on dit que c'est une fête, mais c'est une fête de prière. Donc c'est pas la même chose, une fête de prière. Et donc en général, à un moment donné, dans les années 2000, on a eu à chaque fois, parce que pendant le Ramadan, on a à peu près 4 séries. Il y a 4 chaînes importantes qui projettent des séries que je les catégorise en général en 3 parties. Une série comique, une série sociétale très morale et une autre série que j'appellerais métaphysique. Par exemple, il y a un ange qui descend, qui va faire du bien, des choses comme ça. Et tout ça à partir des années 2000. Donc, une série comique qu'on avait pendant quelques années quand même, qui était faite par Reza Attaran, un des grands personnage de l'humour et de comédie iranien, mais une dizaine d'années plus tard, en fait, on a demandé, les religieux, les ulama, ils ont demandé que ça devienne de plus en plus sobre et qu'on essaye d'avoir plutôt des séries plus qui vont vers la moralité, etc. En ce moment, on ne voit pas beaucoup de comédies, voilà. Et c'est vrai que maintenant, on regarde de moins en moins parce que ces séries comédies étaient très quand même connues. Mais il faut savoir que quand même, pendant ces 3 jours de commémoration de la mort de Imam Ali, c'est interdit. Donc, on ne monte pas de comédie, les cinémas sont fermés, etc. Et ça tombe, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que ça tombe au même moment des nuits de Qadr, qui sont les moments importants du Ramadan, où on dit que...
Les 3 premières nuits du Ramadan, où on commémore...
Au milieu, 19 au milieu, à 21,
d'accord.
Voilà.
Où on commémore la mort du premier imam Ali. Du côté, Béatrice Garapon, de la Turquie, qu'en est-il du caractère humoristique des programmes télévisuels qu'on propose au moment de Ramadan? Est-ce que là aussi il y a une certaine, j'allais dire, austérité, une certaine retenue, ou est-ce qu'au contraire, justement, c'est un moment où on lâche?
Ben, c'est intéressant parce que j'étais en train d'y réfléchir. C'est vrai que je pense que les programmes en Turquie sont moins festifs. Il y a moins de programmes comiques que dans le monde arabe. Mais je l'attribue plutôt à un trait culturel. C'est-à-dire que c'est vrai qu'en Turquie, on aime les histoires tristes. C'est un peu comme en Iran. Voilà, il y a assez peu d'ailleurs de séries comiques par rapport aux autres séries. Alors que l'humour est quand même très valorisé dans le monde arabe. C'est une observation un peu empirique, mais je trouve que dans le monde arabe, il y a beaucoup, beaucoup plus de programmes comiques. Ça a beaucoup plus d'importance.
Eh ben, on parle de séries humoristiques, de programmes humoristiques. On va prendre la direction de la Tunisie où là, on adore les caméras cachées.
Ouais. Ah, il y a un frigidaire. اختي تو نخجر لها لهنا طلت عليا طلت عليا هكايا
وين
هاي بنيه هاي طفله يقبض ما يدريش
Bon voilà, alors sans l'image c'est un peu plus compliqué, mais même juste avec le son on comprend, hein, c'est de la caméra cachée, une petite fille qui va se cacher dans un frigidaire, on va chercher la maman ou je ne sais qui finalement ne retrouve pas la petite fille, enfin bref, voilà, on imagine un peu le type de programme que ça peut être. On va retrouver tout de suite depuis la Tunisie en direct par téléphone, Larbi Chouika, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes un spécialiste des médias tunisiens, professeur en sciences de l'information et de la communication à l'Institut de presse et des sciences de l'information à l'université de Manouba à Tunis. Vous avez écrit un certain nombre d'articles sur le ramadan télévisuel en Tunisie. Vos recherches portent beaucoup sur les années 90, mais finalement, les analyses des formats télévisés qu'on retrouve à ramadan sont qu'une vision un peu modernisée. C'est ce que vous expliquez des anciennes sociabilités ramadanesques, à savoir les contes et les plaisanteries. Parce que l'une des choses que vous dites dans vos articles, c'est que le ramadan, c'est un moment particulièrement propice à deux formes télévisuelles qui existaient d'ailleurs évidemment bien avant la télé, c'est les contes, les koulafettes et les plaisanteries, les nouquettes. Alors on retrouve pendant le ramadan des programmes télévisuels qui au fond ne sont que des déclinaisons de ces deux formes-là.
Entre autres, évidemment.
Entre autres.
Absolument. Je pense que d'abord il faudrait placer les émissions de télévision dans cette temporalité du ramadan. C'est une temporalité spéciale qui n'a rien à voir avec les autres mois du ramadan. Là, il y a un certain nombre, je dirais, d'usages et de pratiques qui se trouvent réactivés pendant ce mois. Et on va essayer de les réactiver, mais en les réemployant au temps moderne. C'est-à-dire, c'est ce que j'appellerais plutôt un temps réversible. Et là, les émissions de télévision jouent un peu ce rôle, parce que je dirais même qu'il y a une manière des téléspectateurs de regarder la télévision. Il y a une autre forme d'interaction qui se crée pendant ce mois. Mmh. Et pendant ce mois, évidemment, nous baignons dans tout ce qui est sociabilité familiale, convivialité, la recherche en même temps de tout ce qui est, je dirais, humoristique, à la fois tout ça, parce que ça on joue un peu l'ambiance familiale et ça crée pas mal de liens entre la télévision et les téléspectateurs. Et entre autres, vous avez ce genre aussi qui est très prisé pendant le mois ramadan, à savoir la caméra cachée. Et je trouve, pour ma part, que la caméra cachée finalement renoue avec une pratique qui existait bien avant l'apparition de la télévision. C'était dans les familles de Tunis, on aimait bien égayer ses soirées familiales par des nouquettes. Des nouquettes, c'était des dérisions. Et vous voyez souvent, quelqu'un du quartier, ou bien une voisine, ou bien une parente, tourner en dérision quelques personnages qui soient religieux, ou qui soient même de la famille proche. Mmh. Or, aujourd'hui, cette caméra cachée occupe pratiquement tous les espaces. Et je pense que c'est même un cas particulier pour la Tunisie, parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis le 4 janvier 2011, nous sommes rentrés dans une phase hybride qui, j'espère, débouchera sur une démocratie. Donc, il y a une liberté totale de temps. Et là, on s'attaque directement aux décideurs publics. Mmh. Tous les leaders politiques passent au filtre de cette caméra cachée. Et là, ça crée évidemment des moments de joie, d'exquis pour les téléspectateurs.
Ah oui, on n'en doute pas, la caméra cachée, ça fonctionne toujours, évidemment, c'est toujours extrêmement moderne. Mais vous évoquiez tout à l'heure, Larbi Chouika, cette question de la temporalité, la nouvelle temporalité qui s'installe au moment de Ramadan et la manière dont, au fond, la télévision va à ce moment-là prendre une centralité extrêmement forte dans les foyers tunisiens. Mais quand on regarde un petit peu les choses et quand on regarde l'évolution des pratiques, on voit qu'on regarde plus du tout la télévision comme avant. D'abord, l'écran de la télé, il devient quasiment optionnel, en particulier chez les jeunes, voire en tout cas assez marginal, en tout cas par rapport à nos petits écrans que sont les tablettes et les téléphones portables. Et j'imagine que tout cela doit transformer un petit peu les choses, à la fois la télévision, son contenu, mais aussi toutes ces sociabilités justement que vous évoquiez.
Alors pour ma part, moi j'avais entrepris cette étude dans les années 90. Dans les années 90, il y avait une chaîne nationale qui diffusait, et c'était un peu le porte-voix du pouvoir politique de l'époque, mais on l'a regardé. On l'a regardé parce qu'on l'a regardé en famille. La différence avec les autres télévisions, c'est que pendant le ramadan, on regarde généralement collectivement, réunis autour de la table, cette télévision. Or, aujourd'hui, le paysage télévisuel a complètement éclaté. Nous avons à peu près 13 chaînes de télévision, 11 chaînes privées et 2 chaînes publiques. Mais tous, je dirais, respectent le même format, ramadanesque, entre guillemets, c'est-à-dire, vous avez tout autant des feuilletons, des caméras cachées, mais aussi, vous avez des émissions, je dirais, à connotation religieuse, qui passent aussi bien des psalmodies du Coran que des chants liturgiques. tout ça baigne pendant le Ramadan. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette télévision joue également au sein de la famille le rôle d'une horloge familiale. C'est que vous avez pas mal de plats qu'on va commencer à les préparer selon la programmation télévisuelle.
Ouais.
Je vous donne un exemple. Par exemple, vous avez des plats qu'on veut servir chaud et qu'on commence déjà à les préparer dès un quart d'heure avant l'annonce de la rupture du jeûne, au moment où on commence à psalmodier le Coran.
Ouais.
Donc, ce qui est intéressant, c'est que cette télé rythme aussi les activités de la famille. Tout autant aussi, nous savons que la projection de telle émission correspond en même temps à servir des cafés, thé, qui intervient généralement une heure ou deux après le repas de rupture du jeûne. Donc, il y a, une sorte de d'immersion de la télévision dans toutes les activités familiales de la journée, d'autant plus, et là j'insiste, c'est qu'on la regarde en famille. Ça, c'est une activité qui devient familiale par excellence.
Merci beaucoup, Larbi Chouika, pardon, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes un spécialiste des médias tunisiens.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
هذا خالد وشوف
لا تبلوني في شيء ما لي دخل فيه
وشو مات
العاصوف على ام بي سي 1
Alassouf, donc cette série saoudienne diffusée lors du Ramadan 2018 qui dressait le portrait d'une Arabie saoudite traditionnelle, tolérante, où les hommes et les femmes peuvent se fréquenter sans entrave, où les femmes peuvent même apparaître en public sans voile dans les soirées dansantes. Bref, une société éminemment moderne et progressiste, mais une Arabie saoudite qui va se retrouver à affronter le vent du rigorisme qui va souffler à la fin des années 70. Bonjour Yves González-Quijano. Merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste du monde arabe, auteur d'un blog culture et politique arabe. Les séries de Ramadan sont évidemment éminemment politiques. Elles sont une formidable occasion pour le pouvoir de faire passer un certain nombre de messages auprès de sa population. Comment est-ce qu'on peut comprendre, décrypter le message contenu dans cette série Alassouf dont on vient d'entendre un extrait qui glorifiait ce passé moderne de l'Arabie saoudite?
Alors un peu comme vous le signalez, il y a effectivement une mise en évidence par rapport à ce qui s'est passé aux années 70, un retour un petit peu à la, disons, au traditionnalisme caractéristique de la lecture saoudienne de l'islam. Il faut préciser aussi qu'il y a un deuxième virage qui a eu lieu dans les années 90, particulièrement sévère. Bon, on va pas reprendre toute l'histoire de l'Arabie saoudite, mais on sait aujourd'hui que le prince héritier MBS, Mohammed bin Salman, envisage de s'appuyer sur la jeunesse, qui n'en peut plus effectivement de tirer la langue de tout ce qui lui manque, à tout point de vue, aussi bien en liberté qu'en pouvoir économique. Donc ce jeune prince héritier a décidé de se lancer dans une politique d'ouverture, laquelle le fait s'opposer inévitablement au pouvoir religieux, on va dire, au secteur religieux de la société saoudienne, qui a fait alliance depuis très très longtemps avec le pouvoir politique. Donc il va y avoir, il y a des signaux qui sont envoyés, il va y avoir des conflits, ils sont déjà engagés. Et parmi les signaux envoyés, il y a des feuilletons comme Alassouf, qui essayent de dire, mais écoutez, l'Arabie saoudite, ça n'a pas toujours été ce que l'on connaît aujourd'hui. Il y a eu d'autres périodes, il y a d'autres choix possibles pour cette société, sans qu'on sorte de notre histoire, sans qu'on sorte de nos valeurs, etc. etc.
Mais voilà, est-ce que ce discours, justement, cette position défendue par le prince Mohammed bin Salman, correspond à la réalité?
Historiquement, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a eu des cinémas autrefois en Arabie saoudite. C'est vrai qu'il y a eu des chanteuses saoudiennes, même si les cinémas aujourd'hui sont quasiment interdits, même si aujourd'hui il y a des signaux pour que ça redémarre. Il y a des gros accords qui ont été signés avec des chaînes de distribution américaines dans ce sens-là. Des chanteuses aujourd'hui sur scène, des petites vidéos nous montrent sur les réseaux sociaux des jeunes femmes qui chantent dans des cafés, dans des choses comme ça. Donc il y a une orientation qui est prise.
Donc cette série à la souffle, elle correspond d'une certaine manière à une certaine réalité historique en fait. Il y a effectivement eu ce royaume avec effectivement, disons, une conception, disons, modérée de l'islam.
Oui, mais en même temps, si vous prenez l'exemple, par exemple, en France, de ce qu'on a connu avec la mise en scène de la résistance, les faits de résistance ont existé. En même temps, il y a tout un discours sur la résistance qui a été porté par le cinéma français en particulier, qui correspondait pas forcément à la réalité historique, qui était une relecture de l'histoire. On peut dire un peu la même chose, je pense, par rapport à ce feuilleton. Ça a existé, c'est vrai, il y a eu des périodes moins contrôlées par le pouvoir religieux que d'autres, mais en même temps, le plus important, c'est quoi ? C'est dans le fait de désirer le montrer, moins que dans la question de savoir si c'est vraiment fidèle à la réalité ou pas.
Et comment la France conservatrice saoudienne a accueilli cette série ?
Très mal. Ça leur plaît pas du tout. Déjà que les feuilletons, c'est pas quelque chose de très convenable. Ça leur plaît pas du tout, c'est clair. Ils préfèrent ce que l'Arabie Saoudite proposait il y a encore 4-5 ans, pas plus, des feuilletons religieux où on met en scène les grandes figures de l'islam, le troisième calife Omar, par exemple, qui a fait l'objet d'une série télévisée il y a quelques années de ça. Ça leur plaisait beaucoup plus. C'est sûr qu'il y a une lutte extrêmement forte au sein de la société saoudienne. On sait aujourd'hui, je crois, bien malin qui pourra dire comment les choses vont évoluer.
Et alors ça, c'était à la souffle la grande série du Ramadan 2018. En 2019, qu'est-ce qu'on a au menu ?
Pour l'instant, rien de spectaculaire. Ça vient à peine de démarrer. L'impression générale qui ressort du marché, pas simplement saoudien mais arabe, c'est que le feuilleton se porte pas bien. Le monde arabe ne se porte pas très bien en ce moment, il faut reconnaître. Il a pas mal d'autres soucis ailleurs que dans le feuilleton. Et en termes quantitatifs et qualitatifs, l'année qui se présente a l'air d'être assez moyenne, pour ne pas dire médiocre.
Alors, on va rester...
Un chiffre, si vous voulez, par exemple, en général, en Égypte, il y en a une trentaine de feuilletons nouveaux par an. Cette année, il va y avoir même pas une quinzaine. Donc, c'est quand même moins 50%, ça fait beaucoup, quoi.
Donc, c'est un moins bon millésime que l'année dernière. L'année dernière, justement, il y avait une série qui avait très bien marché en Égypte, c'était L'Aigle de Haute-Égypte. Célèbre acteur égyptien Mohamed Ramadan y incarne un officier de police qui entre en conflit avec des mafieux et autres trafiquants de drogue extrêmement influents de la région. Vous dites que du côté de l'Égypte, il y a eu énormément de séries à la gloire des forces de police. Impossible d'y voir un hasard, Yves Gonzalez-Quijano.
Tout à fait, mais justement, parmi les raisons qui expliquent que la saison cette année n'est pas très bonne, c'est que la ficelle est un peu grosse et le public n'accepte plus d'être complice de ce jeu-là. C'est-à-dire qu'il y a eu de telles pressions sur le secteur de l'audiovisuel égyptien que les producteurs, les professionnels ont du mal, mais que le public ne suit plus non plus. Alors, les pressions, c'est sûr que pour les producteurs, il y a moins d'argent déjà, parce que le secteur étatique égyptien a la mainmise aujourd'hui sur les médias, donc impose ses prix, des prix qui sont pas compatibles avec ce qu'étaient les coûts de la production il y a encore quelques années. Donc le pouvoir égyptien voudrait bien que les prix baissent, mais c'est pas évident. C'est pas évident d'autant plus que les ressources complémentaires qui viendraient de la publicité, elles n'arrivent pas, puisque la situation économique de la région n'est pas bonne, et en particulier celle des plus gros marchés publicitaires qui sont dans le Golfe ne sont pas parfaits. L'Arabie Saoudite est en déficit budgétaire depuis quelques années, ce qu'elle n'avait jamais connu. Donc de ce point de vue-là, c'est pas bon. Et puis aussi, il y a quand même une très très grosse concurrence aujourd'hui, de plus en plus, de deux phénomènes, à la fois la distribution sur Internet et Netflix. Alors Netflix, c'est tout nouveau. Netflix, depuis 2-3 ans, investit dans le marché moyen-oriental, comme il investit partout dans le monde. Et l'arrivée de Netflix parmi les acteurs locaux, c'est une révolution pour tout le monde.
Mais on propose aussi des séries locales sur Netflix.
Ah oui, Netflix. Comme il l'a fait avec les Espagnols, les Sud-Américains,
absolument,
etc., propose à des producteurs locaux de financer ou de rentrer dans une joint venture avec les sauf que le marché est très mal préparé à ça. C'est des acteurs qui toujours sont un peu dans un système économique qui est pas complètement globalisé, on va dire.
Et est-ce que ça, c'est une bonne nouvelle, pardon de vous couper, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour l'autonomie et l'indépendance de l'industrie des séries ? Parce que, vous le disiez, il y a évidemment des pressions très fortes, notamment des pressions économiques, tout simplement, mais il y a aussi, évidemment, en Égypte, comme dans tous ces pays, une commission des feuilletons qui peut éventuellement censurer des séries, qui peut couper des scènes, même si le plus souvent, en réalité, c'est plutôt l'autocensure qui prédomine. Mais est-ce que justement l'arrivée de Netflix change quelque chose de ce point de vue de l'indépendance et de l'autonomie ?
Alors aujourd'hui, il est trop tôt pour le dire. C'est quelque chose qui a commencé depuis un an ou deux. Il y a quelques succès qui sont pas mauvais, mais c'est bon, Netflix, c'est quand même pas toujours dans l'arrêt d'essai. Hein. C'est quand même des séries qui sont destinées à être vendues à un public, donc on va pas non plus, je pense, proposer aux godards locaux de faire des feuilletons. Mais on peut effectivement imaginer que l'introduction d'un acteur global comme Netflix fasse un point d'appui pour des producteurs locaux qui leur permettent effectivement de se dégager des pressions politiques trop immédiates. C'est possible. En termes de qualité intrinsèquement, j'attends de voir. Mais bon, des savoir-faire vont peut-être trouver l'occasion de s'exprimer davantage, ça c'est possible. L'arrivée des réseaux sociaux et des plateformes du type YouTube ou d'autres fait que les gens regardent de moins en moins finalement sur leur écran et ont pris l'habitude de regarder les feuilletons à leur rythme, comme ils l'entendent, soit tout d'un coup en une seule nuit, soit aux heures où ils sont disponibles, en les regardant un peu sur YouTube ou des choses comme ça.
Oui, et puis il y a aussi d'ailleurs pas seulement des séries produites pour la télévision, il y a aussi des séries qui sont produites pour le web. Par exemple, la série dont tout le monde parle en ce moment en Tunisie depuis le début du Ramadan, c'est une web-série justement.
Tout à fait. Ouais. Alors là, c'est un peu comme vous le disiez par rapport à Netflix, c'est à travers effectivement de nouveaux types de distribution genre web-series. Avant les Tunisiens de cette année, les Libanais avaient fait de très très belles expériences, pas pendant Ramadan, mais de web-series qui avaient très très bien marché. C'est effectivement sur des nouveaux modes économiques et de diffusion de ce type-là qu'on peut imaginez que des choses peuvent bouger un petit peu. Les structures de production sont beaucoup plus légères, et c'est plus difficile aussi pour les gouvernements d'intervenir sur ce type de plateforme. Ils ne sont pas toujours aussi conscients des enjeux politiques, alors qu'il y en a certains, il y en a qui sont certains, mais je crois, en particulier en ce qui concerne la jeunesse, qui est très très consommatrice.
Yves Gonzalez-Quijano, vous disiez l'année dernière qu'on observait une certaine montée en puissance de la présence des femmes dans les séries, avec des rôles de plus en plus importants, et vous vous demandiez, c'était dans un article sur votre blog, cpa.ivotes.org, vous vous demandiez si on n'allait pas bientôt avoir une série avec des superwomen policières. Est-ce que c'est le cas cette année? Ça se confirme, cette tendance, du côté de l'Égypte?
D'autant plus qu'il y avait eu le fameux superwoman avec une actrice israélienne qui a fait pas mal de bruit dans la région et ailleurs. Pour l'instant, c'est pas très évident. Il n'y a pas eu encore de grandes... Mais d'une manière générale, les médias parlent peu des feuilletons cette année. Le sujet ne semble pas passionner, car la production a l'air d'être médiocre. Mais c'était pas une prédiction, c'était un peu une forme de boutade, mais en disant ça serait sympa qu'on ait un peu un renouvellement de ce côté-là, ça ferait peut-être bouger les lignes. On peut pas dire qu'on ait vu encore grand-chose aujourd'hui. Oui. Les hommes sont encore les maîtres de la drame, de la série de Ramadan.
الله يا وقت مضى لو هبتنا ما يروح والله يا عمر انقضى بين الاماني والجوع.
Merci beaucoup Yves Gonzalez-Quijano d'avoir été avec nous par téléphone. Je rappelle que vous êtes un spécialiste des médias du monde arabe et que vous tenez un blog. Je vais retrouver tout de suite le nom de ce blog. Je crois que c'est de mémoire cpa.hypothèse.org. Mais enfin, on retrouve ça. Oui, voilà, cpa.hypothèse.org. Mais on mettra évidemment ça en lien sur le site de Culture Monde. Un grand merci à nos deux invités ici en plateau, Assal Bagheri. Merci d'avoir été avec nous. Vous êtes spécialiste du cinéma iranien et chargé de cours à l'université Sorbonne. Béatrice Garapon, merci beaucoup également. Vous êtes politologue, spécialiste de la Turquie, post-doctorante associée au CETOBAC, qui est un laboratoire de l'EHESS. C'est avec ce générique de cette série dont on parlait, cette série saoudienne Al-Assouf, composée par Rached Al-Majid en 2018, qu'on se quitte. Qu'on se quitte pas tout à fait, qu'on accueille notre Brice Couturier national, 11h53.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
On se quittera jamais.
Jamais. Et c'est un plaisir. Les émissions de gaz à effet de serre, Brice, ont-elles baissé à la hauteur des engagements internationaux? Voilà la question.
Non. Or, pour Mats Persson, un expert suédois très influent dans le monde anglo-saxon, ces émissions posent à l'humanité un problème existentiel. Les choses étaient censées changer lors de la conférence des Nations Unies sur le climat réunie à Paris en 2015, rappelle-t-il, le document final fixant dans le marbre l'engagement de prendre à bras le corps la question des émissions a été signé par 197 pays Et de fait, entre 2014 et 2016, les émissions mondiales de CO2 liées à l'usage de l'énergie fossile avaient enfin stagné. Or, elles ont recommencé à augmenter depuis, tant en 2017 qu'en 2018, de 1,7% précisément l'an dernier. Une conférence sur le climat s'est tenue l'an dernier à Katowice, sans résultat tangible. La prochaine aura lieu à Santiago du Chili en décembre de cette année et il faut trouver d'ici là un moyen enfin efficace de pousser les signataires à respecter leurs engagements. Or, il est aisé de prendre la pause devant les caméras du monde entier au sortir de ces conférences en se félicitant d'avoir fixé tous ensemble des objectifs ambitieux. Mais sitôt rentrés chez eux, ces mêmes dirigeants politiques affrontent des pressions en sens contraire. On leur réclame ici des exemptions pour cause de maintien des emplois dans tel secteur d'activité ou de concurrence de la part de pays ne respectant pas les mêmes normes environnementales. Ailleurs, des fonctionnaires chargés de contrôler le respect des normes sont invités à ne pas faire de zèle en échange de pots de vin. Dans les pays en développement, on comprend mal pourquoi on devrait polluer moins aujourd'hui que les grands pays industrialisés l'ont fait eux-mêmes il y a 50 ou 100 ans pour en arriver au niveau de vie qui est celui de leur population aujourd'hui. En France, ne l'oublions pas, le mouvement des Gilets jaunes a été déclenché par l'annonce d'une hausse régulière et programmée des taxes sur les carburants visant à en dissuader l'usage. Expérience qui rend les autres gouvernements méfiants, vous vous en doutez. En l'état actuel des choses, les énergies carbonées sont relativement bon marché. Les gens ne voient pas pourquoi ils s'en priveraient. L'intérêt individuel à court terme rentre ici en contradiction avec celui de l'humanité tout entière.
Alors Brice, comment en sortir? Quelle solution? Que nous dit votre expert suédois Mats Persson?
Eh bien, sa solution, ce serait une taxe mondiale sur les émissions carbonées. Elle aurait pour avantage de peser à la fois sur les producteurs et les consommateurs de pétrole. Les premiers seraient incités à réduire leur production en renchérissant leurs coûts d'extraction et les seconds à privilégier les énergies non fossiles. Même les gouvernements climato-sceptiques y trouveraient leur compte, ajoute mon expert suédois, car le montant de cette taxe mondiale leur serait restitué, gouvernement par gouvernement, État par État. Et une taxe mondiale rencontrerait, je cite, « moins d'opposition politique que les mesures prises au niveau national », comme la taxe sur le gasoil en France, car les consommateurs ne seraient pas les seuls à en supporter le poids. Il peut certes exister des tensions, relève le FMI dans un rapport récent préconisant une taxation à 70 dollars la tonne d'émissions de gaz à effet de serre entre l'efficacité et l'acceptabilité politique d'une taxe carbone. Les Suédois ont été les premiers à introduire une taxe carbone. Ils l'ont instituée en 1991 et elle est actuellement fixée à 114 euros la tonne contre 44,6 euros chez nous en France. Résultat, aujourd'hui, rappelle Fabrice Flippot sur le site The Conversation, la Suède dépend moins des combustibles fossiles que la France. Il représente environ 30% de son bilan en énergie primaire, l'énergie produite sur son territoire, contre 50% pour notre pays, et l'évolution de la Suède est favorable parce que c'était 70% dans les années 70. Mais voilà, cette bonne conduite apparente a coïncidé avec la tertiarisation de son économie. Moins on a d'industrie, moins on pollue chez soi. L'une des explications avec le nucléaire de la vertu relative française, si nous polluons deux fois moins que les Allemands, c'est aussi que nos industries sont moins nombreuses. Mais en important des produits manufacturés, on contribue à la pollution globale et c'est celle qui compte. Selon Catherine Harrison, professeure d'économie à l'Université de Colombie-Britannique, la taxe carbone que vient de mettre en œuvre le Canada devrait satisfaire tout le monde. D'une part, elle relève de la compétence de chaque province, avec toutefois un garde-fou fédéral. Elle est faible au départ, mais va augmenter progressivement à un rythme connu d'avance. Elle s'applique à égalité sur les entreprises et sur les ménages. Elle constitue clairement une incitation à consommer moins d'énergie en faisant des efforts d'isolation des habitations et à grouper ses déplacements. Un crédit d'impôt permettra d'alléger la charge en fonction du nombre de personnes résidant sous un même toit. Au Canada, tout le monde a compris que, je cite Catherine Harrison, la taxe carbone n'est pas une punition pour mauvaise conduite, mais plutôt un signal pris encourageant les gens à réduire leur consommation d'énergie fossile.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et la Grande Table.